C'est parti pour une escapade d'une heure à la rencontre de Nantaises et Nantais venus d'ailleurs. Casser les stéréotypes, voyager, éduquer et mettre en avant des parcours singuliers, c'est ce que vous propose notre joyeuse petite bande. Installez-vous bien, Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
Parler des temps amers de l'esclavage nous confond inévitablement au point névralgique de notre histoire tourmentée et à la magnétique abomination d'où notre peuple est issu. Mais à qui d'autre que nous revient cette mission d'explorer le passé de notre île? À qui d'autre que nous s'impose cette impérieuse nécessité de connaissance? Comment pourrions-nous autrement pacifier notre âme meurtrie de tant de remugles oppressants et de tant de réminiscences?
L'impérieuse nécessité de connaissance et de pacification des âmes meurtries. Explorer le passé, c'est bien ce que nous vous proposons, chers auditeurs et auditrices, pour ce dernier numéro de la seconde saison des Nantaises et Nantais d'ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir les polémiques désormais fréquentes autour du mouvement Black Lives Matter, collectif que nos camarades de l'émission Voix des Luttes ont invité il y a quelques mois sur les ondes de Prune 92 FM. J'imagine aussi que vous vous rappelez encore des statues de négriers ou d'esclavagistes déboulonnés dans plusieurs pays du monde et la prise de parole du président français Emmanuel Macron qui disait alors, et je cite, « La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statue. » En tout cas, il n'y est pas allé par quatre chemins en France. Pas de marge de manœuvre a priori. Plus récemment, nous pouvons aussi faire état d'état de passe d'armes par médias interposés entre Rokhaya Diallo et Rachel Kahn autour des termes « racisé » et « racé ». Tout ça pour dire que le débat sur la diversité française et l'héritage de l'esclavage et les traites se manifeste de plusieurs manières ces derniers mois, voire années. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Eh bien aujourd'hui, nous allons envisager une autre dimension de ces interrogations, l'autre face de la médaille, si j'ose dire. Comment est-ce que l'Afrique, les Africains, vivent leur propre version des mémoires et mémoriels de l'esclavage et des traites? Pour aborder cela, nous avons deux invités qui ont répondu favorablement à l'invitation de l'équipe des Nantaises et Nantais d'ailleurs, et qui, je dirais, sont tout particulièrement qualifiés pour avoir cette discussion. Premièrement, en face de moi, à gauche, nous avons le docteur, professeur en histoire Amadou Séou. Bonjour, professeur.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Bienvenue à la table de Nantes d'ailleurs. Vous êtes fellow à l'Institut des études avancées de Nantes, institut de recherche unique en son genre car sont invités chaque année sur une base extrêmement sélective une trentaine de chercheurs et d'artistes susceptibles de venir de toutes les disciplines, mais surtout de toutes les régions du monde, avec une dimension de croisement des connaissances et savoirs nord-sud. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur l'esclavage, émancipation et citoyenneté dans les Lamidas de l'Adamawa, c'est bien ça?
Absolument.
D'accord. Dans le nord du Cameroun, le poids du passé sur les comportements actuels. Vous travaillez actuellement sur l'esclavage et la traite dans l'espace camerounais entre le 15e et le 20e siècle. Mais vous allez aussi plus loin en questionnant la dimension mémorielle de l'histoire de l'esclavage, donc nous sommes ravis de vous avoir autour de la table pour discuter du thème d'aujourd'hui. En face de moi, à droite, nous avons notre deuxième invité, Ursula Onima, doctorante en histoire au Centre de recherche en histoire internationale et atlantique à l'Université de Nantes. Votre thèse de doctorat porte sur l'image des Ouest-Africains dans la littérature arabo-musulmane du 15e au 16e siècle et vous côtoyez les notions de race et de l'autre dans vos travaux. Bonjour et merci d'être là aujourd'hui.
Bonjour.
Donc, de sacrés profils autour de la table, mais comme nous disions en amont de l'émission, le maître mot d'aujourd'hui, c'est la pédagogie. Et nous ne pourrions être au complet sans notre cher Patrick, co-animateur et réalisateur de l'émission. Bonjour, Pat.
Bonjour, Lorraine.
Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, oui, oui, oui.
Tu vis toujours aussi bien le fait d'être une minorité en studio quand on parle d'esclavage?
Oui, écoute, il faut bien le token white autour de la table.
Un petit tampon de légitimité.
Voilà, c'est ça. Je suis heureux de remplir ce rôle.
Mais en vrai, moi, je suis suffoquée avec la chaleur en ce moment. Je n'arrive presque plus à respirer avec le masque, mais on va faire avec. Et je suis navrée pour nos invités aussi qui découvrent le studio avec les masques. Ça fait un peu Darth Vader. En tout cas, on va faire avec. Invités, auditeurs, auditrices, les Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est tout de suite.
Des femmes et des hommes à la croisée de chemin, vous écoutez Nantaises et Nantais d'ailleurs sur Prune 92 FM.
Messieurs, vous êtes Nantais d'ailleurs, c'est un peu le principe de l'émission. Professeur Céou, Urshelin Onima, c'est ce qu'on disait en amont de l'émission, on travaille de manière décentralisée pour les services secrets français. Du coup, on vérifie la nantitude des gens qui passent à la table des Nantais d'ailleurs. Il faut blâmer Patrick, hein. C'est vraiment son idée. Et ça passe mal parce que c'est le seul blanc autour de la table.
Quelle bonne idée j'ai eue.
Il représente le négrier.
C'est ça. Le pauvre.
Je vais m'en aller.
Alors Patrick, tu lances la danse ?
Oui, alors messieurs, en passage ici, on doit tester votre nantitude. Marque déposée, nantitude.
On va faire des t-shirts.
On va commencer par professeur. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'où venez-vous ?
Je viens du Cameroun.
Ok.
Je suis enseignant-chercheur à l'université de Maroua, donc c'est dans la partie extrême nord du Cameroun. Et j'enseigne l'histoire, et particulièrement l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leur mémoire.
Okay. Et quand est-ce que vous êtes venu à Nantes ?
Nantes, je crois que c'est ma quatrième fois à Nantes.
Okay.
Je suis déjà venu dans le cadre d'une collaboration avec les Anneaux de la mémoire, que vous connaissez bien à Nantes, qui s'occupe de ces questions d'esclavage, de mémoire, de l'inscription dans l'espace public. Et ensuite, je suis venu pour une réunion internationale pour un projet d'exposition tricontinental, c'est entre l'Europe, l'Afrique, les Amériques, exposition qui est en circulation, qui a été présentée déjà à Nantes, qui était en séjour au Cameroun. Je pense que la prochaine destination, c'est le Sénégal.
Donc vous êtes notre Nantais de passage.
Oui, Nantais de passage, ça c'est vrai, mais c'est une belle ville que j'aime bien. Et puis, par rapport à l'histoire que j'étudie, l'histoire de l'esclavage, Nantes a assumé ce passé-là et a ouvert beaucoup de perspectives pour les chercheurs.
D'où, on va y revenir.
Et Urshelin, d'où venez-vous ?
Urshelin.
Pardon.
Ça commence mal, Patrick.
Oui, bah.
Tu marches sur des œufs, là.
Attendez, une marque de posée qui plus est. Urshelin, c'est assez unique. Ah, oui. Pour le coup, oui, je viens du Gabon.
Ok.
À la base. Et du coup, je suis arrivé d'abord sur Paris pour mon master. Et après, pour ma thèse en fait, de doctorat, je suis ici à Nantes depuis déjà 4 ans.
4 ans, ouais. Ah oui, donc un petit moment. Et comment la comparaison Nantes-Paris, comment ça...
On adore comparer Nantes et Paris.
Oui, bah toujours.
Il faut toujours comparer la province et la capitale, comme qui dirait. Non, mais la comparaison Nantes-Paris, c'est sûr qu'on n'est pas sur... On ne joue pas sur le même tableau. Paris, c'est grand et tout, et avec toutes ces différentes formes de vie. Et Nantes, c'est la belle ville, la belle petite ville.
Ah ouais, ça commence ma petite
vie. De province.
Ouais. Au passage, je vous ai dit, en fait, on est sur la comparaison Nantes-Paris. Donc, comparé à Paris, Nantes, elle paraît petite.
Donc, on s'est mis à mal tout seul, en fait, c'est ça. Il ne fallait pas commencer par là, c'est ça.
Il y a l'élément de comparaison. Il y a la grandeur de Paris et il y a le petit caractère, en fait, de la ville de Nantes. Et au-delà de tout ça, Nantes est une très belle ville. Une ville où tout est assez sympathique et les gens sont plus avenants. Je dirais.
Ok. Ouais. Vous finissez sur un bon point, ça va.
Oui, oui. C'est bon. Je tamponne l'antitude, c'est bon.
Ouais. Eh bien, Patrick, je pense qu'on parlait de Nantes, on parlait de quitter chez soi aussi. Et je propose qu'on écoute Elephant featuring Twin Shandom avec Where is Home.
Ah oui, un bon éléphant.
We'll be right back. When the wave come, you know we can't stay. And endlessness is calling out for me. And you, flesh is pink and life is color blue. Hunger here, hunger never die. We got love, we can still survive. And what I fear is what I gotta do. But can I rest with you?
Elephant featuring Twin Shadom avec Where is Home, donc où est la maison, où est chez moi, chez nous.
Oui, home en anglais, c'est, ouais, il y a ce double sens.
C'est ça,
ouais.
En bon anglophone.
Oui, prof d'anglais.
En tout cas, messieurs, une heure c'est court et le sujet est vaste. Donc je vais commencer tout de suite avec les questions à 100 000 dollars dans notre premier segment. Romuald Azoumé, artiste béninois invité au Château des Ducs de Bretagne à Nantes, en mai 2021, disait « Nous, Africains, devons aussi assumer notre responsabilité dans l'esclavage. » Qu'en pensez-vous, professeur Seyou, d'abord ?
Oui, merci pour cette question qui pose la question de la responsabilité, de la reconnaissance, et puis qui invite à sortir du regard victimaire, la posture victimaire, tout simplement. Les Africains ont leur part de responsabilité, ça c'est certain, parce que la traite, l'esclavage, c'est tout un système. Et qui dit système, dit diversité d'acteurs, diversité de positions, diversité d'intérêts, mais le tout mis ensemble, imbriqué. C'est comme une chaîne. Je pense que partout où on parle de l'esclavage, la traite, le symbole le plus brandi, c'est la chaîne. Donc, il y a plusieurs maillons. Donc, il y a des maillons qui viennent d'Occident, il y a les maillons africains, et tous se rencontrent à la côte, et maintenant vont vers les Amériques, ou alors vers l'Asie, vers l'Arabie, à travers le désert du Sahara. Parce qu'on a souvent tendance à oublier qu'avant la traite transatlantique, il y avait cette traite qu'on a appelée arabo-musulmane ou autre, transsaharienne, en direction du proche Moyen-Orient et même jusqu'à l'Extrême-Orient. Donc, l'Afrique a sa part dans ce système, dans ce processus. À l'intérieur du continent, tout un système s'est mis en place pour se mettre au service des négriers, n'est-ce pas, qui viennent à partir de la côte et qui continuent le système vers les Amériques. Donc, je crois que c'est une responsabilité partagée. Pour un historien qui veut étudier le système, il ne peut pas le considérer d'un seul point de vue et oublier un certain nombre de segments.
Et Urshelin Onima, est-ce que vous partagez l'avis de professeur Seyou?
Oui. Je partage clairement l'avis du professeur Seyou. C'est d'autant plus que, comme il a expliqué, la question de la traite en fait ne doit pas rester dans un carcan, le carcan du transatlantique et le carcan en fait assez occidental dans son processus. Le processus de la traite, quelle qu'elle soit, que ce soit transatlantique ou transsaharienne, doit s'interpréter ou se comprendre comme étant en fait un business. Et qui dit business dit quasi systématiquement deux parties et une production de marchandises. Après, je sais que c'est assez difficile de l'entendre ainsi, mais on est vraiment dans un business et où il y a de la demande et il y a de l'offre. Et qui dit offre, en fait, dit production de la marchandise. La marchandise, en l'occurrence, pour cette période, ça a été en fait, c'était des hommes qui étaient vendus.
Et vous parlez de marchandises et vous dites que ça peut être choquant. En effet, est-ce que vous deux, en tant qu'Africains, parce que vous n'êtes pas français d'origine africaine, vous êtes des Africains, vous vivez ou vous avez vécu une grande partie de votre vie en Afrique avant de venir en Europe, est-ce que ça ne vous gêne pas, en tant qu'homme noir, d'utiliser ce terme marchandise pour qualifier des hommes noirs africains comme vous ?
Oui, absolument. Surtout quand on voit tout ce qui se dit aujourd'hui, comment on vit cela, comment on le comprend. Mais il faut, pour l'historien, il faut retrouver le contexte de l'époque. Et pour vendre un être humain, il a fallu tout un processus de chosification, de dépersonnalisation. On lui enlève la dignité, on lui nie sa dimension humaine. À partir de ce moment-là, on le transforme en objet de commerce, n'est-ce pas, qu'on peut, en marchandise, qu'on peut vendre, parce qu'on lui a nié toute humanité. Et c'est cette perte d'humanité-là qui est un élément essentiel dans la compréhension de ce processus qui va se mettre en place. Il y a des idéologies qui ont été développées, soit en tirant, en manipulant, par exemple, les Écritures saintes, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, on trouve un certain nombre de versets que les gens vont interpréter à leur façon pour justifier cela. Par exemple, la malédiction de Cham, elle a été utilisée comme si ce fils de Noé, maudit, alors comme par magie, il est devenu noir, et comme il est noir, il est bon pour être exporté. Alors, les philosophies ont été développées pour montrer que le noir, il n'a pas d'âme, il n'a pas d'esprit, il n'a pas d'intelligence, c'est un animal. Et quand on regarde même toutes les images qui ont été véhiculées, d'ailleurs même jusqu'à la période coloniale, avec l'exposition coloniale, que ce soit en France ou ailleurs, alors tout cela, il y a un processus qui a été mis en place pour déshumaniser. Et à partir du moment où on a déshumanisé, on a ôté la dignité, tout ce qui reste, c'est la valeur marchande et puis la force de travail, parce qu'on avait besoin de cette force de travail-là. Et les écritures, les religions, l'islam, le christianisme ont été manipulés, n'est-ce pas, pour justifier cela. Et on va retrouver plus tard, plusieurs siècles après, quand il a fallu abolir, on va tirer encore des mêmes saintes écritures, des éléments pour montrer que non, c'est des humains, ils ont tous été créés par Dieu, à l'image de Dieu, dont tous les hommes sont des frères, ainsi de suite. Donc, c'est des constructions qui ont été faites pour satisfaire les intérêts, comme il disait tout à l'heure. Donc, on transforme l'être humain en marchandise pour servir le business, comme il a dit, il a utilisé le terme business.
Ursula Onima sur ce terme de business. Loin de moi de vous faire un procès d'attention, hein, mais justement, ça fait partie des questions qu'on se pose. Vous êtes historien. Donc, il y a une certaine distance par rapport au sujet que vous étudiez. Mais vous êtes aussi homme noir. Est-ce que le fait d'utiliser ces termes de manière tout à fait neutre en tant qu'homme noir, ça n'enlève pas un petit peu justement l'horreur de ces terminologies et ces idéologies-là ?
Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est... il faut se mettre, comme le disait le professeur Seyrou, dans le contexte. Le contexte est un contexte en fait économique. Premièrement, rappelons aussi le contexte d'études aujourd'hui, ou le contexte d'appréhension des choses aujourd'hui. On appréhende les choses aujourd'hui sur un plan moral, ce qui fait que tout ceci en fait nous apparaît comme étant horrible, quand bien même c'est fondamentalement horrible. Toujours est-il que pour le contexte d'époque, on est dans une toute autre approche, l'approche en fait totalement mercantiliste, qui veut que l'homme, je disais mercantiliste, mais plutôt... assez physiocratique, en fait, qui voudrait qu'il n'y a point de richesse que d'homme. L'homme produit la richesse. On n'est pas, en fait, dans ce truc, dans cette chose très mécanique qui voudrait que la production ou la machine, en fait, produise à ce moment, pour cette période, c'est l'homme qui produit la richesse. Et pour produire la richesse, il faut avoir des esclaves. Et les esclaves, à cette époque, en fait, que ce soit la période, en fait, médiévale ou la période moderne et plus ou moins contemporaine, vers la fin de l'époque moderne, c'est l'homme qui produit la richesse et cet homme est majoritairement noir. Donc, est-ce que en fait le fait d'employer le terme en fait de dire marchandise pour des noirs qui étaient réduits en esclavage en fait devrait être choquant de la part d'un homme noir? Je ne pense pas à partir du moment où c'est un sujet d'étude.
Je vois. En parlant de sujet d'études, on va faire un petit point terminologique pour que tous nos auditeurs et auditrices nous suivent un petit peu. Nous parlons aujourd'hui d'esclavage, mais aussi de traite. Est-ce que les deux termes sont différents, bien que liés ? Et qui d'entre vous deux se lance tout d'abord pour l'esclavage et après la traite ? Et en quoi ils sont différents ?
Oui, fondamentalement, c'est différent. même si la traite, c'est juste une dimension de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est le système tout entier, c'est-à-dire des origines jusqu'au bout de la chaîne. Et la traite, c'est la modalité d'acquisition. Donc, comment on obtient un esclave? Soit on l'achète, soit on le vend, soit on le capture, soit on l'hérite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la traite. La traite, c'est vraiment la dévolution, l'appropriation, la dimension mercantile, commerciale, tout simplement. Maintenant, quand on a acheté, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a la mise en exploitation. Donc, on est dans le système. Est-ce que c'est dans un domicile, esclave domestique? Est-ce que c'est dans une plantation, esclave de plantation? Est-ce que c'est dans une mine? Ainsi de suite. Donc, quand on parle de l'esclavage, ça intègre le terme traite. Bon, mais maintenant, si on veut juste s'arrêter à la dimension commerce, alors là, on prend la traite, on laisse le reste du système. Donc voilà, bon, il peut peut-être...
Que... Vous voulez rajouter quelque chose
À ce qui a été dit, non, parce que tout, c'est assez explicite, en fait, le propos du professeur Seyou, de dissocier le tout. Moi, je voulais peut-être revenir, en fait, je pense que c'était votre première question, en parlant de responsabilité. Parce que lorsqu'on parle de responsabilité, c'est de mettre toutes les parties, en fait, au même pied d'égalité. Dire, en fait, que chacun porte, en fait... sa part d'horreur ce qui concerne en fait l'esclavage, sa part d'horreur en fait de la chose. Et l'historiographie, que ce soit l'historiographie tirée de la période en fait de la décolonisation et post-décoloniale en fait, a plutôt contribué à concevoir en fait une responsabilité occidentale de l'esclavage. Cependant, le professeur Seyou l'a expliqué tout à l'heure, il y a une responsabilité partagée. Et cette responsabilité partagée, elle n'est pas que, comment dire, liée à la plantation dans les Amériques ou à l'exploitation dans les plantations marocaines et autres. Non, elle est aussi une responsabilité locale dans l'usage même des esclaves.
Oui. Alors, vous anticipez un tout petit peu sur les questions qu'on va aborder un tout petit peu plus tard. Donc, il n'y a pas de souci, on est bien lancé. Mais, professeur Seyou, justement, vous estimiez que les archives démontrent que les Africains ont leur part de responsabilité dans la traite des Noirs et que l'esclavage précédait l'arrivée des Occidentaux en Afrique. Oui. La recherche le démontre également. Toutefois, c'est sur quoi un grand nombre de chercheurs s'accordent pour dire c'est que la traite occidentale a amené le trafic de l'homme noir à des niveaux jamais vus, et que ce fut la plus atroce traite. Et là, Ursula Onima disait que la responsabilité à partager pouvait éventuellement amener à une responsabilité équivalente. Est-ce que vous partagez cet avis, ou est-ce que c'est une fausse équivalence?
Oui, je pense que c'est une histoire, et comme c'est une histoire assez fragmentée, et il y a plusieurs dynamiques qui sont en cours, parfois à des époques différentes. Si les Occidentaux disent, ou certains auteurs disent qu'il y avait l'esclavage en Afrique avant la traite transatlantique, par exemple, historiquement, on peut le soutenir, mais en prenant en compte un certain nombre d'éléments. Le premier élément à prendre en considération, c'est l'antériorité de la traite transsaharienne. Parce que la traite à travers le Sahara, vers l'Arabie, la Méditerranée, le Proche-Moyen-Orient jusqu'en Extrême-Orient, elle a existé, on peut dire, depuis le 7e siècle. Alors, donc, avec la naissance de l'islam, le développement des circuits commerciaux en direction du pourtour méditerranéen et de la zone intérieure africaine à travers le Sahara, ça crée un marché, ça crée une demande, ça crée des circuits commerciaux. Je parle du 7e siècle. Et ça va continuer. Maintenant, la traite occidentale, elle vient par la côte. Et elle est même l'une des conséquences du développement de l'Empire arabe. Parce qu'avant cette période-là, aller en Asie, les Européens passaient par la Méditerranée. Méditerranée, mer Rouge, on est dans l'océan Indien. On pouvait aller chercher les épices en Inde, en Chine, jusqu'au Japon, ainsi de suite. Avec la naissance de l'Empire arabe, avec le développement de l'activité des corsaires et autres en Méditerranée, mer Rouge, les Européens vont chercher des voies de contournement. Parce que la naissance de la traite est liée à cette recherche d'une voie de contournement par l'Ouest. On veut contourner maintenant par l'océan Atlantique pour repartir en Asie à la recherche des épices. Et c'est là où les Portugais, les Espagnols entrent en contact avec les populations ouest-africaines sur ces côtes-là. Donc, quand ils arrivent, nous sommes au 15e siècle. Alors, au 15e, ils disent, nous, on commence à faire cela, on commence à prendre des petits nègres sur la côte occidentale, on ramène à Lisbonne, on ramène à Madrid.
Mais après, à l'intérieur, ils vont se rendre compte qu'il y avait déjà un système qui était mis en place, qui avançait aussi vers ces zones-là. Donc, c'est pour cela qu'ils vont dire, mais non, nous n'avons pas amené, nous avons trouvé un système qui existait déjà. Mais si on rentre fondamentalement dans les sociétés africaines, avant la traite arabe, avant la traite transatlantique, dans les sociétés africaines, on ne connaissait pas le système d'esclavage. Il n'y avait pas de marché d'esclaves. Pour que cela puisse exister, il a fallu qu'il y ait cette demande, ces circuits, ces réseaux qui ont été mis en place.
Excusez-moi de vous interrompre, oui. Mais la question reste, est-ce que c'est vrai que la traite occidentale est la plus atroce de toutes les traites qui ont pu avoir lieu sur le continent africain?
Ah oui, parce qu'elle a été développée à un niveau inouï. Dans un capitalisme mercantile, industriel, on a industrialisé l'esclavage, en fait. Donc ça, c'est en termes de volume, en termes de système, de moyens mobilisés, et ça a été sans pareil, ça
et
c'est
la
vrai.
La déshumanisation de l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui était caractéristique de l'esclavage intra-africain? Et là, en excluant le monde arabo-musulman, est-ce qu'entre Africains, vu qu'on pratique l'esclavage, on va arriver plus tard, est-ce que la déshumanisation de l'autre, c'était quelque chose qui caractérisait cette forme d'esclavage avant l'arrivée de la traite occidentale?
Avant les traites exportatrices, c'était des systèmes de resocialisation. C'est-à-dire, il peut y avoir des rapts, il peut y avoir des enlèvements, mais les victimes étaient rapidement intégrées dans la famille. Il pouvait y avoir des servitudes pour dettes, des mises en gage, mais ça avait une durée et ça n'avait pas cette forme d'exploitation, de déshumanisation, parce que la victime était intégrée à la famille. Et puis, il manquait tout le système, tout le dispositif coercitif, répressif, d'enfermement, ainsi de suite, qui sera développé largement du côté atlantique.
Ishla Onima, je sens que vous voulez réagir, allez-y.
Non, mais je dirais plutôt que pour essayer de, pas forcément de nuancer les propos du professeur, c'est où, mais plutôt de dire, je voulais dire en fait que c'est sûr que la traite, l'esclavage intra-africain a une caractéristique en fait toute particulière dans la mesure où déjà en fait déjà c'est une forme de perte de généalogie dans ce sens où la personne ou la victime en fait d'un rap n'était pas systématiquement intégrée à la communauté. Toujours est-il que au fil du temps, au fil des générations, elle finissait par intégrer cette communauté nouvelle pour elle. Elle perdait en fait son droit ou sa faculté en fait liée à une lignée de porter un nom, oui. Mais elle finissait toujours par intégrer en fait sa nouvelle communauté. Par rapport aux propos précédents du professeur Seyou, d'autres propos de professeur Seyou, c'est est-ce que en fait la traite transatlantique a été plus horrible en termes quantitatifs que le reste, la traite en fait intra-africaine ou la traite transsaharienne, je pense que c'est difficile de juger les deux, d'essayer de mettre les deux sur le même pied d'égalité, le même piédestal, parce que la traite transsaharienne a pour défaut en fait le manque de données statistiques. C'est le premier défaut de cette traite. Ibn Battuta pouvait parler en fait d'une caravane en fait qui partait du Mali, de l'Empire du Mali en 1352, je crois.
Oui, oui, oui. Avec
une caravane en fait qui partait avec 600 esclaves. Oui. Et en tenant compte de cet élément, en faisant un calcul en fait annuel, on arrive en fait à des taux élevés par rapport au nombre de caravanes en fait qui vont fréquenter en fait les régions en fait ouest-africaines pour cette époque. Après, le nombre de caravanes annuel, c'est difficile aussi de quantifier.
Oui.
Parce qu'un manque de données statistiques comparé en fait à la tenue de compte sur la côte. Donc, à ce moment, on a du mal à quantifier les choses. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on parle de ces différentes traites, on voit en fait les aboutissants. On voit les captifs prélevés qui arrivent de l'autre côté des rives. On ne voit pas les captifs en fait prélevés qui finissent qui dans l'océan, qui restent en fait à
jonger en fait à l'opération de rapt ou de transport,
qui restent en fait dans le Sahara, en fait, en tant que mort.
Oui. Alors, je vais un petit peu revenir sur la dimension un peu plus contemporaine de ces polémiques-là.
Oui.
Je suis navrée, il faut que je vous pose cette question. C'est un peu inconfortable, mais j'ai moi-même entendu poser cette question et Ursula Onima et moi-même avons déjà discuté de ce thème-là. Alors, on a le terme de nègre de maison.
Oui.
Un terme employé par certains qui voient en certaines personnes de couleur des tendances à vouloir être bien vues par les anciens colons. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être qualifié de nègre des maisons en présentant et défendant vos recherches? Parce que vous dédouanez un petit peu l'Occident pour ceux qui sont attachés à cette responsabilité de l'Occident.
Oui, parce que votre question a plusieurs dimensions. C'est la question de la responsabilité. Elle est beaucoup plus une affaire judiciaire, une affaire juridique.
Et morale.
Et morale, une affaire de recherche de culpabilité. Or, l'historien, son travail n'est pas de chercher le coupable. Son travail, c'est d'établir les faits. Les faits, c'est quoi? Qui a joué quel rôle, à quelle étape, à quelle période, et comment il a contribué dans le processus? Voilà, et nous, les archives nous disent, nous montrent, les personnes qu'on interroge, n'est-ce pas, font des témoignages, les vestiges qu'on peut observer par rapport aux itinéraires, par rapport aux sites qui ont servi à cette époque-là. Tout cela nous parle et nous dit, n'est-ce pas, qui étaient les auteurs, qui étaient les usagers et qui avaient participé à ces différents processus-là. Donc, la question de la responsabilité ici, elle doit se voir sur toute la chaîne. Donc, à partir des lieux de capture, qui achemine, les transits, ceux qui conditionnent, ceux qui maintenant achètent d'une manière ou d'une autre, bon, pour aller revendre et tout ça. Alors, le terme de nègre de maison, en fait, la terminologie, elle est variante, elle est changeante quand on essaie de questionner cette histoire de la traite-là. Parce qu'à chaque époque, on essaie de trouver des termes pour qualifier un certain nombre de positions ou bien de conditions auxquelles étaient assujettis les esclaves. Alors, nègre de maison, moi, dans la partie que j'ai étudiée dans le Cameroun septentrional, c'est un terme qui n'existait pas. J'ai peut-être un équivalent quand on parle d'esclaves de case. Et avec la colonisation, on a glissé au lieu d'esclaves. Le colonisateur français a choisi plutôt d'abolir le terme. Au lieu d'abolir le système, il a aboli le terme. On parle de serviteur de case. Donc, l'esclave devient le serviteur. Ce n'est plus le nègre, ce n'est plus l'esclave, mais c'est le serviteur.
C'est un petit peu cette référence terminologique-là à laquelle je fais référence, que les détracteurs, justement, des études que vous faites, vous, utilisent.
Oui.
Ursula Onima, est-ce que vous avez une réaction par rapport à un procès d'intention qui peut vous être fait, justifié ou pas?
Le professeur a rappelé un principe élémentaire concernant, en fait, les études historiques. Ouais. En tant qu'historien, on n'est pas là pour faire un procès.
Ouais.
On n'est pas juge. Ouais. C'est comme, permettez-moi en fait la comparaison, mais c'est comme dire en fait un policier en fait à la fois de mener une enquête et après derrière en fait de condamner le présumé coupable.
Ouais. C'est pas son travail, la condamnation.
Lui il mène une enquête et c'est au juge derrière. Et après, au judiciaire, la partie purement justice, de donner une sanction. Nous, on fait des recherches, on établit des faits, et après, on laisse la polémique ou le reste, en fait, tirer des leçons de ce que nous, on a pu trouver, mais on préfère, nous, analyser des données, on se base sur ces données, et ces données nous disent qu'il faut relativiser lorsqu'on se met, en fait, à parler de cette question, en fait, liée à l'esclavage, à la traite, et voilà quoi.
J'entends. Alors, professeur Sehou faisait référence à transit. Je propose qu'on digère tout ça avec un petit peu de musique. Patrick, j'ai découvert ce chanteur Jiangu Makroy, j'espère que je prononce bien son nom, à Eurovision.
L'Eurovision.
Le candidat néerlandais, je suis tombée amoureuse de la chanson Earth of a New Age.
Skin as rich as a starlit night.
Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion.
Deep currents running in the rivers of your eyes.
Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion.
They spat on your crown and they poisoned your ground.
Your rhythm is rebellion. Your rhythm is rebellion.
They burned your heroes at the stake.
It's the birth of a new age. You know man broke on me. 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 You know man broke on me.
Alors, c'était mon petit plaisir, Birth of a New Age par Jean-Gu McCroy. J'espère que je prononce son nom correctement. Alors, on arrive au second segment de notre émission, qui est le tabou de la collaboration africaine, mais je dirais plus aussi la relation intra-africaine à l'esclavage. Professeur Sehou, si on se situe dans un contexte purement intra-africain, au Nigeria, il y a une statue au cœur d'un rond-point central de Lagos, d'une femme africaine, Ifunruye Tinubu, qui a fait fortune grâce à la traite d'esclaves africains. Pour la petite histoire, avec les influences et relations de ses maris successifs, elle développe une activité commerciale et sert d'intermédiaire entre les négriers et les chasseurs d'esclaves. En décembre 1851, sous prétexte d'abolir la traite négrière, les Britanniques interdisent l'esclavage, mais Madame Tinubu continue à échanger secrètement des esclaves contre des armes à feu avec des commerçants brésiliens et portugais, et a exercé une grande influence à Lagos. À l'époque où, en Europe, les afro-descendants réclament le retrait des statuts de négriers dans l'espace public, que pensez-vous des mêmes interrogations au Nigeria?
Oui, c'est une question assez difficile. Vous avez utilisé le mot tabou. Le tabou de la traite par rapport à l'Afrique, il part du contexte de décolonisation. Quand il fallait lutter contre le colonisateur, on a laissé de côté toutes les contradictions des sociétés africaines. Il fallait mobiliser tout le monde dans le combat anticolonial et par conséquent utiliser à la fois la traite et toutes les autres atrocités causées par l'occupant, c'est pas pour parvenir au but recherché. Maintenant, après les indépendances, nécessairement, il faut maintenant questionner les dynamiques internes, les dynamiques locales. L'espace camerounais que j'étudie, tout comme l'espace nigérian, c'est des espaces qui sont assez imbriqués. Si je prends par rapport à la traite atlantique, la région de Grassfield du Cameroun a été l'une des régions majeures d'exportation d'esclaves vers le port de Calabar, par exemple, qui est le port le plus important sur la côte au niveau du Nigeria. Et le ravitaillement en majorité venait de ces régions de Grassfield du Cameroun. Si on prend maintenant la partie septentrionale du Cameroun, le Nord Cameroun a été imbriqué dans le processus transsaharien via l'empire de Sokoto, qui était le plus grand empire africain au 19e siècle. Donc, il y a cette double imbrication et tout ça. C'est le partage colonial qui est venu séparer et tout cela. Maintenant, pour revenir à la statue, c'est la contextualisation. Pour l'historien, à l'époque, le négrier était vu comme la personne, la vitrine la personne qui a réussi, la personne qui mène les activités, ainsi de suite. Alors, à ce moment, ça ne posait pas problème. Quand on érige une statue à une personne qui était impliquée dans la traite, c'est comme ces différents châteaux que nous avons au cœur de Nantes, n'est-ce pas, avec les têtes des négriers sur les façades, pour rendre même hommage aux esclaves qu'on a vendus, n'est-ce pas, et qu'on a utilisés. Alors, donc, ça, c'est pour l'époque, c'était tout à fait réel. Maintenant, si nous prenons notre regard d'aujourd'hui, notre indignation, notre condamnation, notre criminalisation de ces faits-là, en ce moment, c'est à nous de décider et c'est aux politiques, parce que ça devient une question politique. Ce n'est plus une question historique. Pour l'historien, les statues et toutes les traces qui ont été laissées de notre passage, tout cela est important parce que ça témoigne de tout ce qui s'est passé. Pour l'historien, c'est faire savoir ce qui s'est passé. Voilà l'intérêt majeur. Et il utilise toutes les sources. Maintenant, s'il y a des gens qui décident aujourd'hui d'effacer les traces, d'effacer la mémoire, d'effacer les sources, ou construire une autre mémoire sur la vérité historique, c'est tout autre chose, c'est une dimension à la fois polémique, militante, mais beaucoup plus politique.
Professeur, est-ce que c'est effacer et réécrire l'histoire, ou est-ce que c'est une société d'aujourd'hui aussi qui décide qui elle veut honorer? C'est-à-dire qu'on peut très bien enlever cette statue et la poser dans un musée. Ça fait partie des alternatives. Est-ce que c'est une réécriture de l'histoire ou un choix sociétal?
Le fait de laisser la statue n'enlève en rien le choix d'aujourd'hui. On peut laisser la statue, mais marquer, mettre une indication pour dire que ça, c'est la statue d'une personne qui a participé à la traite. C'est dire la vérité. En fait, l'histoire, c'est ça, c'est dire la vérité des faits. Vous avez la statue, même si c'est une statue des nazis ou de n'importe qui, dites quel rôle il a joué dans l'histoire. Tel. Il a vécu de telle période à telle période. Il a fait ceci, il a fait cela. Dites ce qu'il a fait. Maintenant, à chacun de juger.
Et vous faites référence aux nazis. Si je suis cet exemple, vous imaginez en Allemagne aujourd'hui une statue d'un nazi en cœur de Berlin?
Vous avez le musée de l'Holocauste en plein cœur de Berlin.
C'est un musée, ce n'est pas...
Oui, mais un musée, une statue, c'est toujours une représentation. C'est toujours une façon de conserver cette mémoire.
C'est la manière de la faire aussi qui importe.
C'est toujours une façon de la présenter. Donc, si vous parlez de l'esclave et vous oubliez qu'il y avait le maître, si vous parlez du nègre, vous oubliez le négrier, c'est pas, vous ne traduisez pas toute l'histoire. C'est ça toute la réalité.
Ça devient une histoire sélective.
Voilà, pour l'historien, c'est le tout. Je ne peux pas parler de l'esclavage, je ne parle pas de celui qui a réduit les esclaves en esclavage. Ça n'a pas de sens. Si je parle du nègre, je dois parler du négrier, forcément. Et les deux dimensions traduisent la réalité. Et aux générations futures, je présente ce qui s'est passé en fonction des sources que j'ai obtenues. Parce que l'historien aussi présente ses sources, documents qu'il a. Et c'est tout simplement
Ceux qui ne sont pas d'accord avec vous diraient que probablement ce n'est pas une question des générations futures, c'est la génération d'aujourd'hui en disant « vous avez fait vos recherches
ouais. ».
Et on peut en tenir compte, mais rien ne nous oblige à garder des rappels quotidiens de personnes qui ont commis ces actes-là. Être dans un musée, c'est une obligation de mémoire, mais on peut très bien les garder dans un musée et expliquer leurs gestes et ne pas confronter les victimes à des vues à vivre ces statuts au quotidien.
Je suis parfaitement d'accord, mais à condition qu'on mélange pas tout. La dimension historique, elle doit rester, on doit respecter le travail des historiens. Maintenant, la dimension militante, la dimension politique, aux politiques de décider. L'historien, lui, il fait son travail et c'est tout simplement ça. Mais si l'historien devient le politique, il commence à décider qu'on doit présenter la mémoire de tel ou tel. Ensuite, il ne fait plus son travail.
Je vais redonner la parole à Urshelin, mais Patrick veut dire quelque chose. Pas tous les jours que ça arrive.
Donc... Non, je pense intéressant. J'ai vu un article cette semaine, on a peut-être tous vu, à Bristol, le statut de Edward Colston, négrier de la ville,
oui.
Qu'on avait poussé dans le port lors d'une manifestation.
Oui.
Aujourd'hui, le statut est actuellement dans un musée couché, de manière symbolique apparemment. Et donc, voilà, juste pour faire le lien, quoi, qu'on peut garder le statut et le mettre dans un musée.
On pouvait aussi la laisser là où elle était, mais mettre une plaque qui indique le rôle qu'il a joué. Et je pense que c'est plus pédagogique. Si celui qui vient voir la statue de Colson et sait quel rôle il a joué, je crois, ce n'est pas qu'on le célèbre, mais on dit ce qu'il a fait.
Urshelin, Onima ne va pas se contenir. Je sens qu'on va pas, on va le perdre. Allez-y, Urshelin. Oui.
Au fond, qu'est-ce qu'une statue?
Voilà.
Si ce n'est en fait la représentation d'un personnage
voilà.
ou d'un événement. C'est tout comme un bas-relief, en fait. Toujours est-il que ce qui cadre avec une statue, c'est l'explication qui suit.
Voilà.
C'est à peu près, en fait, comme un épitaphe.
Ouais.
Un épitaphe n'a d'existence ou de valeur que lorsqu'il est explicite, fondamentalement, ouais. Qui repose à cet endroit.
Voilà.
Et derrière, je pense que tout le débat autour de l'annulation ou l'effacement, en fait, est un débat politique, est un débat de société, de génération, de militants.
Ouais.
Et qui a tout son sens, parce que c'est le questionnement d'une génération
ouais.
par rapport à certains faits, par rapport à sa place dans la société. Et n'oublions pas que ce questionnement est plus un questionnement occidental.
Ouais.
C'est un questionnement qui s'inscrit dans des sociétés différentes, dans la société à la fois états-unienne et la société française. Et n'oublions pas, si je m'abuse, à la suite des événements liés au décès de George Floyd, du moins au meurtre ou l'assassinat de George Floyd, l'Union européenne, par l'entremise du Parlement, votait en fait une résolution dans laquelle, étonnamment, en fait, elle donnait en fait une forme de légitimité à certains propos. On dit que ce n'était pas noir européen, mais plutôt afro-européen. Pour les noirs européens, en fait, ils ne sont pas des noirs européens, mais des afros. On leur donne en fait cette notion ou dimension en fait, bicontinentale. Pour les afro-américains, c'est la même chose. Cependant, en fait, ce ne sont pas des afro-américains, ce ne sont pas des afro-européens, ce sont des noirs européens. Et le mouvement d'effacement ou de lutte, en fait, s'inscrit dans toute cette dynamique pour une simple et unique raison. Ce sont des gens qui veulent une reconnaissance ou la reconnaissance ouais. en fait nationale ou territoriale de leur passé dans ce territoire, dans les territoires en fait où ils vivent, lesquels territoires ont toujours jusqu'à présent nié en fait leur existence. Par conséquent, cette lutte en fait d'effacement s'inscrit dans cette dimension là. L'autre côté, pour revenir à les responsabilités en fait africaines de l'esclavage, notamment avec la statue de Tinubu. Je n'ai pas plus de connaissances en la matière. Toujours est-il que ça ne s'inscrit pas encore, en fait, aujourd'hui, s'il y a cette forme de silence subsaharien. C'est parce que ce sont des débats, en fait, qui ne s'inscrivent pas encore dans les logiques nationales subsahariennes actuellement. Les logiques actuelles, en fait, sont tout autres que des éléments, en fait, liés à l'esclavage.
Ne m'en voulez pas de vous interrompre. En réalité, selon mes recherches, ce n'est pas tout à fait exact, parce que déjà dès 2009, le Guardian publiait un article où l'on parlait d'une association, notamment au Nigeria,
oui.
qui demandait à ce que les chefs locaux acceptent leur responsabilité dans la traite des esclaves. Et aussi, on a des minorités au Ghana, où là, où justement, le royaume Ashanti a beaucoup participé et a beaucoup bénéficié de la traite. Aujourd'hui, les Ashanti sont prédominants économiquement et politiquement. Et les minorités estiment que les Ashanti ont gardé un certain monopole des écoles des élites et reproduisent un schéma social qui est issu de la colonisation, l'esclavage et la traite. Donc ces revendications existent, peut-être qu'on n'entend pas
on
parler
les entend, oui,
en Europe, mais intra-africains, elles existent.
Localement elles existent ou elles peuvent exister être sourdes et ne pas être aussi audibles en fait, que ce serait le cas en, fait, en Occident. Toujours est-il que la question de la responsabilité, en fait, et de qui aller par rapport à l'esclavage, en fait, est plus aujourd'hui une question occidentale. Cela n'empêche pas, en fait, qu'on devrait aussi localement militer pour une responsabilité africaine dans la participation ou la contribution même à l'esclavage ou aux différentes traites.
Alors, c'est très passionnant, mais Patrick me dit qu'on est pressé par le temps.
Oui,
on fait
une
courte pause musicale et on enchaîne.
Très bien. Je lance Woodkid. Run, boy, run.
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run.
They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Oh, is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run, it's time to run.
Donc,
c'était Run by Woodkid.
Je ne veux pas te dire ça comme ça, Patrick, mais tu commences à avoir un accent français.
Oui, je sais.
Tu devrais te reprendre en main.
Il y a comme un interrupteur dans la tête que je dois lancer.
En tout cas, après un petit peu de légèreté, on va revenir un petit peu quand même sur la France contemporaine face à son histoire coloniale et esclavagiste. Mais plutôt, effectivement, là, se concentrer un peu plus dans le contexte de recherche. Le 7 avril, le New York Times publie un article avec la question suivante en titre. Les idées américaines menace-t-elle la cohésion française ? Et le 14 février 2021, Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, annonçait sur CNews qu'elle allait demander notamment au CNRS de mener une enquête portant sur l'ensemble, je cite, « l'ensemble de courants de recherche en lien avec l'islamo-gauchisme à l'université ». Et deux jours plus tard, à l'Assemblée nationale, elle confirmait la mise en place d'un bilan de l'ensemble des recherches en vue de distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. En tant que chercheur, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais je me tourne peut-être vers le professeur Seyou en priorité tout de suite là. Seriez-vous en mesure de nous expliquer ce que ça vous provoque, ce questionnement de Frédéric Vidal ?
Oui, je pense que chaque fois qu'on mélange la recherche académique et la politique, ça ne peut que créer des polémiques. Et dans le système français, c'est cela. On a vu cela en 2005 avec, je pense, sous Jacques Chirac. Il y a une loi qui avait été passée à l'Assemblée pour demander aux historiens français d'enseigner les aspects positifs de la colonisation. Alors, pour un colonisé, quand il entend ça, il y a problème. Mais le problème, c'est quoi ? Parce qu'un colonisateur, même quand... Je prends le cas du Cameroun, que je connais un peu mieux. Je dis, quand les Allemands ont occupé le Cameroun en 1882. Ils ont créé la première ligne de chemin de fer. Oui, pour celui qui voit le chemin de fer pour la première fois, il peut dire, oui, les Allemands, où ils ont apporté le chemin de fer. Mais ce chemin de fer, c'était pour quel but ? Ils reliaient le port de Douala aux plantations de la région du Mont Cameroun. Ce n'était pas pour que les Camerounais voyagent en train, c'était plutôt pour transporter les produits des plantations vers la côte et vers les ports allemands. Quand ils ont créé les hôpitaux, c'était pourquoi ? Ce n'était pas parce qu'ils voulaient soigner les Camerounais, parce qu'il y avait la maladie du sommeil qui sévissait et ils avaient besoin d'une main-d'œuvre, ils avaient besoin de bras. Sans soigner, ils ne pouvaient pas avoir cette main-d'œuvre-là. Donc, l'objectif derrière, quand ils ont créé l'école dans les colonies, c'était pourquoi ? C'est pour former des auxiliaires, des gens qui comprennent les ordres du colonisateur et transmettent aux populations dans l'intérêt du système colonial. Donc, rien n'a été fait fondamentalement pour résoudre les problèmes des Africains ou pour faire évoluer l'Afrique. Et la colonisation en elle-même, c'est un système de pillage, pillage des ressources, en fait, du sol et du sous-sol. C'est ça, qu'est-ce qui fonde un peuple aller occuper un autre et ramasser ses richesses, n'est-ce pas, des générations et des générations. Aujourd'hui, on continue sur le même système. Et ça a débuté pendant l'époque de l'esclavage, ça continue jusqu'à aujourd'hui.
Quand je vous écoute, professeur, j'ai envie de vous réinviter une prochaine fois parce que je commence à voir quand même, vous êtes plus indigné sur les notions d'enseigner les côtés positifs de la colonisation que la responsabilité partagée de l'esclavage et la traite. Du coup, j'ai envie de passer une heure avec vous encore à discuter de ça, mais on n'a pas assez de temps. Donc, je vais juste poser la dernière question à Ursula Onima. Certains chercheurs appellent à décoloniser la pensée et la recherche africaine. Je pense notamment à Richard Mbebe, Mbeb de l'Université de Yaoundé 2 du Cameroun. Est-ce que vous pensez que le fait de centrer aujourd'hui encore la recherche sur l'Afrique autour de l'esclavage empêche de découvrir et éduquer sur les grands empires africains, les philosophes et d'autres figures marquantes n'ayant aucun lien avec l'Europe ?
Je pense que ce qu'il faut véritablement faire, en fait, c'est décoloniser la recherche historique sur l'Afrique. Mais c'est quoi décoloniser la recherche historique sur l'Afrique ? En fait, c'est la sortie en fait, de ce carcan de l'esclavage. L'esclavage comme étant en fait l'élément assez central où en fait toute l'histoire de l'Afrique se résumerait là-dedans, ce qui est totalement faux. L'histoire de l'Afrique en fait est bien plus vaste, ou je dirais pas l'histoire de l'Afrique,
des nuance, Afriques.
L'histoire des Afriques est bien plus vaste en fait est bien plus riche et profonde que l'histoire de la de l'esclavage et de la colonisation, qui ne sont que des ruptures temporaires dans la continuité même de cette histoire. Par conséquent, oui, on se doit de décoloniser, si on peut dire, en fait, cette histoire et la sortir de cet élément, en fait, militant, de production historique, plus ou moins militante, mais quand je dis militante, en fait, c'est pour renvoyer à la période, en fait, de lutte contre la colonisation et de l'esclavage. Il faut la sortir de cet élément-là, de cette période, et aller vers une continuité qui, par conséquent, derrière, en fait, pourrait permettre, en fait, d'aller plus loin dans la connaissance, en fait, des sociétés africaines sur le plan historique.
Messieurs, nous savions, une heure, c'est court, nous n'aurions pas le temps d'aller au fond de toutes les choses. Je suis assez autant frustrée que vous.
Ah oui.
On arrive à la fin de l'émission. Chers auditeurs et auditrices, c'est déjà la fin, comme je disais, et c'est surtout la fin pour cette saison, car l'émission de juin, enfin, en tout cas, la saison habituelle, on ne sait pas si on revient l'été, on verra, mais c'est la dernière saison, la dernière épisode, le dernier, on va y arriver, le dernier épisode de cette saison. Nous reviendrons en octobre pour notre troisième saison. Il me reste à remercier nos invités, professeur Seyou, Amadou Seyou et Ursula Onima, pour cet échange très intéressant. Ursula, nous vous souhaitons le meilleur pour votre thèse. Je sais à quoi ça renvoie. Je remercie mon fidèle binôme Patrick, qui était à la fois à l'animation et à la réalisation. Merci de toujours répondre présent. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi.
Oh ben, une émission sans doute sans moi. Et merci à toi, Lorraine.
Tu te crois marrant, en fait.
Ben oui, je suis marrant.
Alors, nous allons vous quitter avec le mot de Célia, l'une des fondatrices du mouvement Black Lives Matter de Nantes, une jeunesse pas si résigné que ça, donc on vous donne rendez-vous en octobre prochain.
C'est très souvent arrivé de me décourager, mais comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie d'offrir une perspective d'avenir à la jeunesse, parce que je pense qu'on, en tant que société, on le doit en fait aux générations qui vont nous suivre, de leur offrir un monde meilleur. Pour moi, c'est un devoir, en fait, d'offrir quelque chose, de laisser un impact positif, parce que la terre qu'on va laisser, c'est ce que les autres vont récupérer, en fait. Et du coup, mon espoir, c'est déjà de continuer dans ce qui a été lancé, autant par nos ancêtres qui ont beaucoup fait. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais... Ils ont fait avancer les choses positivement, ils ont produit beaucoup d'écrits, voilà, on veut transmettre ça et apporter aussi notre pierre à l'édifice en changeant les choses de manière locale, par exemple à Nantes. Et ben, on pourrait devenir un exemple pour les autres villes, par exemple avec un mémorial de l'esclavage qui serait exporté, entre guillemets, par exemple à Bordeaux, qui était aussi un grand port négrier, ou au Havre, je ne sais pas. Et aussi travailler sur les programmes d'histoire, parce que en fait le rôle de l'école normalement c'est d'éduquer des futures personnes, mais surtout des futurs citoyens. Et comment est-ce qu'on forme un futur citoyen correct si on ne lui apprend pas la vraie histoire, au lieu du roman républicain qu'on nous sert en cours d'histoire? Et pour moi, le fait d'apprendre correctement l'histoire de la France, même si il y a certaines tâches, hein, on le sait tous, et ben ça ne veut pas dire qu'on fait de la victimisation, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, ça ne veut pas dire qu'on veut rabaisser la France. Au contraire, je trouve que c'est la grandeur d'une nation de pouvoir reconnaître ses erreurs et de pouvoir avancer, en fait. Et je trouve que c'est un message d'espoir de dire que si on se bat pour que les choses changent, ça veut dire qu'on a un espoir que les institutions puissent être assez bonnes pour nous écouter et pour faire changer.